un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 23 juin 2025 et je voudrais aujourd'hui vous présenter en fait non pas une chronique, mais une interview, ou même pas une interview, plutôt un entretien, je pense que ce sera le terme qui convient le mieux, avec quelqu'un pour le que je reçois avec un immense plaisir, André Rosweg, correspondant de l'UJFP pour la région Aquitaine, responsable de l'UJFP pour la région Aquitaine, et je pense que nul mieux que lui peut se présenter et présenter son association. André.
Merci Jean-Louis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc André Rosweg, actuellement donc dans les locaux de Coulounier. Il se trouve que j'ai été enseignant à Périgueux de 1977 à 1994, et que depuis, je suis dans la région bordelaise. J'ai adhéré à l'Union juive française pour la paix seulement en 2003. C'est une association qui est née en 1994 et qui porte une parole juive, laïque, qui rassemble donc des gens qui... fondamentalement, ont voulu, à partir de leurs histoires, et à partir de parcours assez divers, ensemble, marquer une volonté de paix, et de paix juste et durable, notamment en Palestine-Israël. Cette association n'est pas la plus nombreuse, mais elle comporte quand même entre 500 et 1000 personnes en France. On pourra revenir là-dessus si tu le souhaites. Nous avons essentiellement donc une intervention de contestation aujourd'hui radicale du discours sioniste, c'est-à-dire pour aller vite... Nous ne pensons pas que créer un État juif était une bonne idée. On pense que cette idée est finalement une idée née tardivement à la fin du XIXe siècle, à l'image des mouvements nationalistes que l'Europe a connus dans ce siècle du XIXe, et que c'est une idéologie de la séparation. C'est cette idée que, pour l'émancipation des Juifs, qui effectivement étaient soumis au racisme que l'on appelle l'antisémitisme, la seule solution aurait été un développement séparé. Et pour ce développement séparé, de créer un État en alliance avec... les impérialismes occidentaux, allons vite, même si au départ, Théodore Herzl, le fondateur du sionisme politique, pensait qu'il pouvait négocier aussi bien avec le tsar qu'avec l'empereur. Mais finalement, c'est avec l'idée que c'est en Palestine que cet État juif pourrait trouver sa place, et que ce serait un allié sûr pour la civilisation européenne, dans une vision très raciste de cette région du monde, mais on y reviendra peut-être. Donc c'est comme cela que l'UJFP s'est constitué, a de plus en plus approfondi son antisionisme, et bien évidemment... cela nous a conduit, l'association, à ne pas s'intéresser seulement à la question de Palestine-Israël, mais également à la lutte contre toutes les formes de racisme. Et aujourd'hui, par exemple, à la fois contre l'antiziganisme ou contre l'islamophobie, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors moi, je suis membre de la coordination nationale, porte-parole pour la Nouvelle-Aquitaine et installé sur Bordeaux. Voilà.
Et avec peut-être même une présence de l'association en Dordogne, avec peut-être des correspondants locaux.
Alors, soyons francs, pour le moment, il n'y a pas de fonctionnement collectif en Dordogne. Nous avons plusieurs adhérents et je pense que dans les jours, ou disons dans les semaines qui viennent, ces adhérents vont apparaître directement et notamment directement dans le collectif girondin pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. J'espère qu'ils pourront participer pleinement à ce collectif dans lequel j'ai été plus ou moins le correspondant extérieur de l'UJFP.
D'accord. Bon, écoutez, je pense que nos auditrices et auditeurs ont déjà découvert beaucoup de choses. Peut-être même que certains ignoraient l'existence même de l'Union juive française pour la paix et que l'objet même de cette association que André vient de décrire amène chacun à réfléchir parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est devenu extraordinairement dangereux, que nous sommes passés dans une instabilité dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient qui met le monde entier en danger, y compris l'attaque israélo-américaine contre l'Iran nous fait avoir les pires craintes sur ce sujet. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Nous allons essayer de revenir sur l'action que mène l'UJFP et puis les réflexions que vient de donner André, notamment en donnant quelques indications sur la manière dont a été créé l'UJFP, basée donc sur cette critique de la création même de l'État d'Israël. Hein, tu as dit que c'était une mauvaise idée. Ça m'a fait immédiatement penser au propos de George Biden devant le Sénat américain. Alors je crois que c'est en 1985, donc c'est assez ancien, mais c'est une époque où il avait encore toute sa tête, on va dire. Il avait dit, je crois mot pour mot, si Israël n'avait pas été créé, il aurait fallu l'inventer. C'est la meilleure initiative qui a été prise dans cette région du monde pour la défense de nos intérêts. Ce qui montre que sur ce sujet, il y a deux aspects. Parce que il y a l'aspect concernant les Juifs eux-mêmes, alors avec cette initiative sur laquelle, effectivement, on peut porter toute une série d'avis. Je pense même également que tu as sans doute beaucoup d'informations là-dessus, que sur le plan politique, le point de départ, ça a été également la déclaration Balfour. Je pense que ça a joué un rôle important et que ceux qui ont porté cette déclaration Balfour et jusqu'à la création de l'État d'Israël ne brillaient pas par leur amitié envers les Juifs d'une façon générale. Je pense qu'il y avait même quelques antisémites notoires. Donc c'est comme un élément qui caractérise un petit peu les choses. Donc il y a ce plan-là, puis il y a le plan, finalement, mais c'est pas du tout contradictoire, on le voit bien, de la question de l'impérialisme, et que ce que dit George Biden de manière très directe, c'est que c'est la défense des intérêts impérialistes au Moyen-Orient, une région où il y a le pétrole, une région où il y a des monarchies moyenâgeuses que l'impérialisme américain a certainement intérêt à conserver pour préserver justement ses intérêts. Donc peut-être qu'on peut échanger sur cette question-là, sur ce double aspect, la question des Juifs. J'irais par derrière, dans la guerre qui se mène actuellement, ce qui est, à mon sens, fondamental, c'est la question de l'égalité des droits.
Alors, nous avons peu de temps, donc je vais essayer de vous dire. Nous avons publié plusieurs livres. Donc vous pouvez les commander à votre libraire habituel. Et je pense qu'ils vous apporteront des réponses plus fournies que celles que j'aurai le temps de donner aujourd'hui. En particulier, nous avons publié il y a 2 ans « Antisionisme, une histoire juive », qui est une véritable anthologie qui montre tous les courants de la pensée juive, religieux ou non religieux, révolutionnaires ou libéraux, qui font que, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le sionisme politique était ultra-minoritaire parmi les communautés juives. Je ne parle pas de peuple juif, ce qui est un sujet qui supposerait une émission à elle toute seule. Vous connaissez le titre, au moins, du livre de Shlomo Singh.
Pourquoi j'ai cessé d'être juif ?
Non, oui, mais qui avait au départ dit que l'invention du peuple juif... soyons simples. Il n'y a pas de peuple juif génétique. Bon, ça, c'est clair. Deux, quand nous parlons de juifs, ou bien on met une majuscule ou on ne met pas de majuscule. Quand on parle de juifs avec une majuscule, ça veut dire qu'on parle d'une communauté qui a une culture, des caractéristiques ethniques, une mémoire, ce qui ne suppose pas forcément un État. On peut parler de breton avec une majuscule, ça ne fait pas un État breton. Et d'autre part, quand on parle de juif avec une minuscule, ça veut dire que, comme pour les catholiques ou les protestants, il s'agit de juifs au sens de l'appartenance au judaïsme. À l'UJFP, nous sommes tous juifs avec une majuscule, dont certains avec une minuscule. Mais ce n'est pas la religion qui constitue l'association. Et c'est vrai que, si vous voulez, les communautés juives, au départ, ont eu une origine religieuse, mais c'est comme quand on parlait des musulmans en Algérie avec une minuscule, parce que en Algérie, tous les indigènes étaient classés musulmans, alors même qu'ils avaient ou n'avaient pas de religion. Ça, c'est une histoire compliquée que la libre pensée, bien évidemment, connaît. Donc, oui, jusqu'en, on va dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'idée de faire un État juif n'était pas majoritaire. Le sionisme politique était totalement ignoré des communautés juives existant au Maghreb ou au Mashrek, et elle était minoritaire en Europe, en Occident d'une manière générale. Si, le basculement, est incontestablement venu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais je pense que je dis toujours, il y a toujours trois raisons essentielles de ce basculement. Il y a bien sûr la Shoah, c'est-à-dire que toute une partie des communautés juives qui existaient dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est a été totalement absorbée par la destruction, le génocide, la destruction des Juifs d'Europe, et notamment, par exemple, a fait pratiquement disparaître le Bund, c'est-à-dire ce parti national juif, révolutionnaire, socialiste, qui considérait que l'émancipation des Juifs passait par la Révolution.
Et qui a joué un rôle fondamental dans la création du mouvement ouvrier.
Absolument. Ça, c'est clair. La deuxième raison de ce basculement, c'est incontestablement l'attitude antisémite des pays occidentaux, y compris face à la destruction et à la solution finale décidée par Hitler. Pour prendre un symbole, quand la conférence de Wannsee décide de l'élimination physique des Juifs d'Europe, fin 1941, et met en route cette solution finale, dès le premier trimestre de l'année 1942, les représentants des communautés juives à Londres expliquent ce qui est en train de se nouer. Et cela ne provoque de la part des alliés aucune action particulière. Nous avons tous, j'ai envie de dire en tant que juif, en tête que pas une seule bombe n'est tombée sur la ligne de chemin de fer conduisant à Auschwitz. C'est-à-dire qu'il y avait une indifférence, ou peut-être de façon cynique, l'idée que c'était une folie d'Hitler et que toutes les forces qu'il allait consacrer à cela, il ne les consacrerait pas aux autres buts de guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette indifférence qui avait déjà commencé en 1938, quand la conférence d'Évian sur les migrants qui arrivaient d'Europe, d'Allemagne et aussi de Pologne et autres, et que tous les pays occidentaux se sont refusés à monter les quotas autorisant les gens à se sauver. Bon, ça, c'est quelque chose que nous avons en tête aussi et qui explique une partie. Et la troisième raison, qui est plus compliquée à développer aussi, c'est le stalinisme, c'est-à-dire ce qu'a été la politique de l'Union soviétique qui n'a pas véritablement combattu, bien qu'il y ait une partie non négligeable des militants du parti bolchevique qui étaient juifs, surtout à l'origine. C'était pas ce que Staline pouvait préférer. Et d'une certaine façon, je dis parfois, pour aller vite, que Staline a été, bien avant Macron, le partisan du « en même temps ». C'est-à-dire que c'était en même temps une dénonciation, une acceptation de l'antisémitisme traditionnel russe, et donc une dénonciation des juifs que l'on présentait comme sionistes, parce qu'il n'aurait pas été raisonnable pour un parti communiste de dénoncer les juifs comme juifs. Donc on les dénonçait comme sionistes, alors même qu'on savait qu'ils ne l'étaient pas. Bon. Et d'autre part, dès 1947-1948, un soutien explicite à la création de l'État d'Israël, avec un armement même fourni aux milices juives avant le 15 mai 1948 pour faciliter l'action de la Ghana. Donc on est, et l'Union soviétique a été le premier État à reconnaître l'État hébreu, comme on dit maintenant, c'est-à-dire Israël, de façon unilatérale. Alors bien sûr, c'est une histoire compliquée, mais on comprend, sans l'approuver en ce qui nous concerne, que les communautés juives aient peut-être partout eu tendance à basculer vers le sionisme. Juste un truc, parce qu'on en parle assez peu. Entre 1945 et 1948, la libération des camps d'extermination n'a pas abouti au fait que leurs participants, les internés, puissent regagner immédiatement leur pays. Ils ont été maintenus...
Leur pays où ils vivaient, avant
voilà,
la guerre.
Auparavant. Ils ont été maintenus dans des camps pendant des mois et des années. D'abord parce qu'on craignait le typhus, et ensuite parce qu'on ne voulait pas forcément les accueillir. Il y a un livre qui est paru, qui s'appelle « L'attente », aux éditions du Détour, qui montre comment, pendant des années, il y avait ce problème-là. Et il y a eu, y compris, une discussion compliquée entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'inquiétant, à ce moment-là, d'une trop grande arrivée de juifs en Palestine par rapport à ses accords avec les pays arabes. Mais finalement, à partir de la proclamation du 15 mai 1948, il y a eu ouverture. Et donc les survivants, pas forcément bien accueillis, mais accueillis en Israël. Donc c'est une histoire extrêmement compliquée, qui bien sûr renvoie à une histoire longue, c'est-à-dire l'histoire de l'anti-judaïsme chrétien, puis, à partir du 19e, du racisme biologique qui a été inventé, développé, mais on peut comprendre cette histoire. Alors, c'est une histoire très longue, je vous renvoie à plusieurs livres, et y compris une partie des membres de l'UJFP ont, dans leur jeunesse, été sionistes. On a fait un petit bouquin qui s'appelle « Parcours de juifs antisionistes en France », où on est 22 à avoir raconté notre histoire. Je fais partie des histoires les moins intéressantes, parce que, en ce qui me concerne, je fais partie des gens qui n'ont pas eu d'éducation juive, et encore moins sioniste. Mes parents sont d'origine juive. Mon père est né à Varsovie, ma mère est née à Odessa. Ils sont venus faire leurs études en France, mais ils ont abandonné la religion avant de faire des enfants. Et donc j'ai eu une éducation totalement athée et je n'ai jamais été travaillé par cette question religieuse. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, mon père était profondément anti-sioniste et donc je n'ai pas été touché à cela. Beaucoup, après la guerre, de mes camarades de l'UJFP ont eu d'abord une attitude sioniste pour les raisons que je viens d'évoquer et de développer. Mais quand est-ce qu'ils ont changé ? Le plus souvent, après leur premier ou leur deuxième voyage en Israël. C'est-à-dire que l'idée dans laquelle ils avaient été élevés, à savoir que la création d'Israël était l'émancipation du peuple juif, c'était la réussite de l'émancipation du peuple juif, ils se sont aperçus que cette émancipation du peuple juif se faisait dans un cadre colonial, dans un cadre raciste, dans un cadre militariste, c'est-à-dire à l'opposé des valeurs avec lesquelles, dans lesquelles
ils vivaient. Ça replie sur soi, finalement.
Et donc, ces camarades qui étaient naturellement favorables, pour ma génération, à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie ou contre l'intervention américaine au Vietnam, se sont retrouvés en porte-à-faux et en prenant conscience progressivement que le projet israélien n'était pas un projet d'émancipation, mais un projet colonial.
Merci André de ce développement, je dirais assez long au vu du format de notre chronique, mais je crois que sur les trois raisons que tu as données, chacune mériterait un développement et je dirais même plus une conférence et tout. Je pense qu'on va essayer de continuer à travailler ensemble. Hein. On a l'habitude en Dordogne d'organiser des conférences assez fréquemment. La prochaine, c'est jeudi soir sur le thème « Le capitalisme et la guerre ». Et ça a été mis en place... comment dire, conçu avant les derniers événements tragiques concernant donc l'attaque d'Israël, combinée d'Israël et des États-Unis en Iran.
Nous sommes bien évidemment dans la dénonciation de ces guerres préventives qui mettent en morceaux le droit international. Israël, de ce point de vue-là, a été le poisson pilote presque de Trump et dans les derniers événements. Et c'est effectivement une remise en cause fondamentale de toutes les tentatives qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, essayaient plus ou moins maladroitement et plus ou moins honnêtement de créer un monde vivable.
Voilà. Merci. Alors, je propose qu'on passe tout de suite le premier extrait du choix musical. Hein. Tu as choisi le premier couplet ou le tout début de la chanson « Le chant des marais », qui a bien sûr un lien direct avec beaucoup de choses que tu as évoquées dans ton intervention. Et puis, je te laisserai ensuite la parole pour expliquer le choix de ce premier extrait et puis présenter le second.
Alors, c'est un chant que j'ai compris chanter quand j'étais éclair hors de France. Ça faisait partie du chansonnier. C'est un chant qui est né dans les camps de concentration des prisonniers allemands à partir de 1933, c'est-à-dire en particulier des communistes allemands, où il y avait pas mal de juifs, comme on peut le savoir. Et j'ai découvert avait été maintenant mis en façon assez massive l'hymne des femmes Et je vous propose, si vous êtes prêts, à en passer dès maintenant le premier couplet. Je ne dénonce pas cette récupération. Je pense que toutes les airs peuvent être repris. Et je pense que la longue oppression qu'ont connue les communautés juives en Europe ne sont pas complètement hors sujet. Mais, et que les femmes aient choisi cette aire et cette construction pour leur hymne me paraît tout à fait sympathique. La seule chose, c'est que je me suis aperçu que beaucoup des femmes qui chantaient cet hymne en ignoraient l'origine. Et que donc je suis content.
L'histoire.
Voilà. Et je suis donc content de pouvoir leur donner cette information.
Merci beaucoup, André. Nous arrivons vers la fin de cette chronique. Bon, tu t'es déjà exprimé un petit peu là sur le conflit qui est en train de se développer de façon tragique entre, d'un côté, Israël, les États-Unis, et j'irai tous ceux qui regardent un petit peu ailleurs, et l'Iran, avec bon, les menaces graves sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Certains disent aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à celle qui a précédé 1914. Je crois que c'est assez vrai. Et ça m'a posé une question, mais ce sera le sujet d'une émission. Vont-ils assassiner une nouvelle fois Jaurès ? Parce qu'on sait que les conséquences qu'ont eues en 1914... cet assassinat, hein, au moment où Jaurès tentait de mobiliser la classe ouvrière en France, mais pas seulement en France. Il avait des liens en Allemagne avec Karl Liebknecht notamment, et que son assassinat a bouleversé les choses, que très rapidement, beaucoup ont baissé la garde, ont accepté de voter les crédits de guerre, et que le déchaînement qui s'en est suivi... amener les millions de morts que l'on sait, avec cette caractéristique, c'est que cette guerre a produit des blessés et des morts dans chaque famille française. Je crois qu'il n'y a aucun autre conflit qui a, à ce point, touché la totalité du pays. Alors, on s'est déjà exprimé sur ce sujet. Hein, nos auditrices, auditeurs savent qu'on a des actions pacifistes, notamment au moment du 11 novembre, avec les rassemblements, par exemple, à Gensioux. Pour ce qui concerne le groupe Fred Zeller de Dordogne. Et donc, nous reviendrons sur ces questions. Alors, je rappelle simplement que jeudi soir, à la filature de Lille, salle de danse, alors numéro 1 ou numéro 2, je ne sais plus trop, mais je crois qu'elles sont côte à côte, donc ce ne sera pas très, très difficile à trouver. Réunion débat de la libre pensée, groupe Fred Zeller, le capitalisme et la guerre. Venez nombreux. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Eh bien, ce sera lundi prochain et nous serons le 30 juin. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.